Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 19 décembre 2017. Alors, 25 000 sur le Dow Jones, 2700 sur le S&P et 7 000 sur le Nasdaq. Si l'on devait prendre les paris pour la fin de l'année, le fait d'atteindre les chiffres ronds précités devrait être un objectif raisonnable, sans compter que la volatilité a totalement disparu et que personne ne va oser vendre avant vendredi prochain et que le thème de la réforme fiscale fonctionne à tous les coups et pour tous les problèmes. La réforme fiscale est là. Solution. Vous avez la grippe? Prenez de la réforme fiscale en gélule pendant 3 jours et tout sera réglé. Vous cherchez un emploi? La réforme fiscale devrait vous y aider. Vous cherchez un appartement? La réforme fiscale. Des problèmes d'argent? La réforme fiscale encore. Retour de l'être aimé, impotence sexuelle, manque de confiance en soi, problème de vie à Sécura? La réforme fiscale peut vous aider. Jamais dans une vie d'investisseur nous n'aurons vu un prétexte autant utilisé pour justifier la hausse. Je ne sais pas ce qui va concrètement se passer le jour où tout le package sera définitivement approuvé par le Sénat, le Congrès, la Maison Blanche, le Conseil fédéral, Yannick Butet et le Conseil municipal de Plan-les-Ouates, mais une chose est certaine, on l'aura utilisé à toutes les sauces. Jeudi passé, le sénateur Rubio ruait dans les brancards et faisait baisser le marché. Hier, il est revenu dans les rangs et depuis, le marché a repris 3 fois ce qu'il avait perdu depuis les déclarations de ce même Rubio. En gros, un pas en arrière aura coûté 3 pas en avant aux indices américains. Les experts sont de plus en plus convaincus que tout va se régler avant la fin de l'année, ce qui ne nous laisse pas beaucoup de temps. Et puis même si ça ne se fait pas, ça laissera de la munition pour continuer à faire monter le marché l'an prochain. Bref, vous l'aurez compris, la probabilité que la réforme fiscale se retrouve sous le sapin fait que les marchés montent sans se poser de questions. Que ce soit en Europe, les Européens qui ont réussi à mettre de côté leurs angoisses sur les élections italiennes pour fêter la presque acceptation de la réforme fiscale, pendant que les 3 indices US s'approchaient des chiffres ronds. Et on sait combien ils les aiment, les chiffres ronds, ce qui nous laisse de beaux espoirs pour la séance de ce soir. Pour faire simple, on est monté et on se prépare à monter encore. Le Bitcoin ne parvient pas à franchir les 20 000 dollars, il garde probablement de la réserve pour nous faire une surprise à Nouvel An et monter directement à 25 000, bien qu'hier, la France et l'Allemagne ont commencé à déclarer qu'il était urgent de commencer à réglementer le Bitcoin, citant le fait que le Bitcoin est utilisé par les terroristes, les blanchisseurs d'argent par propre et les trafiquants de drogue. Pendant ce temps, Nakamoto, le probable inventeur du Bitcoin, est en théorie entré sur la liste des 50 personnes les plus riches de la Terre puisqu'autour des 20 000 dollars, il pèserait 19,4 milliards de dollars. Sauf que personne ne sait réellement qui c'est, because la transparence du Bitcoin justement. Tout ce que l'on s'autorise à penser dans les milieux autorisés, c'est qu'il posséderait, conditionnel, 980 000 Bitcoins. L'or est à 1265 dollars et le pétrole à 57,29, mais comme ce ne sont pas des crypto-monnaies, tout le monde s'en tape. Ce matin, le Bitcoin, justement, vaut 18 784 dollars et on ne peut pas passer sous silence la hausse de Longfin. Longfin est une fintech américaine qui offre des solutions de forex pour à peu près tout le monde qui a fait son IPO la semaine dernière. Le titre a terminé sa première séance à 5 et 15 cents. À la fin de la semaine dernière, le titre valait 39 et hier soir, ils ont annoncé qu'ils rachetaient la société Zidu.com qui est active, je vous le donne en mille. Dans le blockchain, le titre est passé de 39 à 142 avant de terminer dans une vague de prise de profit à 72 hier soir, soit tout de même 228% de hausse sur la journée et 1260% depuis l'IPO, soit depuis une semaine. Débile n'est pas le mot que je cherche, mais je dirais plutôt grosse connerie. En l'an 2000, vous passiez votre société de Slipangro à Slipangro.com et votre action faisait à peu près la même chose. Longfin possède un joli site vitrine que vous pouvez mettre en ligne pour 5 000 et un bon hébergeur. Et pour le reste, ça ressemble à du vent. En conclusion, le monde devient complètement débile ou alors on n'a pas vraiment appris grand-chose du passé. Ce matin, le Nikkei est inchangé, Hong Kong monte de 0,8%, la Chine de 0,5% et les futurs US sont légèrement en hausse. Et puis côté chiffres économiques, nous aurons le SECO en Suisse, l'IFO en Allemagne, puis le Redbook et les inventaires pétroliers de l'API. En attendant la réforme fiscale, on reprend la BCDR de l'année 2017 avec le F comme FANG, l'acronyme qui ne voulait pas dire grand-chose il y a un an et qui a transformé la finance en quelques mois. Ce n'est pas un médicament contre la dépression, ce n'est pas non plus le nom d'un nouveau groupe de rap dont on ne comprend pas les paroles, c'est juste les premières lettres des stars de 2017. Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google. Je ne vous apprends rien sur ce coup-là, mais il faut dire que sans ces 5-là, la performance du S&P 500 serait nettement moins glamour. Si on prend leur performance individuelle, c'est de la pure folie. Facebook est en hausse de 56%, Apple grappille 49%, Amazon grimpe de 53% et Netflix de 55%. Et le loser de l'équipe, Google, ne progresse que de 32%. C'est nettement moins bien que le Bitcoin, mais on ne va pas non plus parler que de lui. Par contre, il faudra noter que Alibaba a pris 100% en 2017, que Tencent, l'autre chinois, a aussi pris plus de 100% et que les deux ensemble valent plus de 1 trillion de dollars. Nvidia a aussi progressé de 109%. Finalement, c'est pas terrible ces FANG, surtout que même Boeing est en hausse de près de 100% sur l'année. C'est fou quand on met les choses en perspective. Par contre, la capitalisation boursière cumulée de ces 5-là représente tout de même 2,8 trillions de dollars. Et sachant qu'en moyenne, ils ont pris 50%, je vous laisse imaginer l'impact sur le S&P 500 à eux 5. Ce fut donc une année de folie pour ces technos-là. La question que l'on peut se poser, c'est de savoir si tout cela est durable. Et comme c'est la grande question de l'année, on ne va pas revenir dessus encore et encore. On se demandait déjà si ça pouvait durer fin 2016. Toujours est-il que la farandole des chiffres est proprement hallucinante. En G, nous avons G comme gold. Il y a des années avec et il y a des années sans. Pour l'or, ce fut sûrement une année sans. La seule bonne nouvelle que l'on retiendra pour lui, c'est qu'il est parvenu à monter de 10% les deux premiers mois de l'année et depuis, il a réinventé le concept de l'emmerdement maximum. Il s'est contenté d'osciller entre rien et pas grand-chose dans une volatilité qui a donné l'impression que la statue du général Dufour à la place des Bastions est très mobile. Le métal jaune a parfaitement rempli son office de valeur refuge. Sauf qu'en 2017, on n'avait pas besoin de valeur refuge. Or, on y a bien cru de temps en temps lorsque le clan des ours venait nous dire qu'on allait tous mourir dans d'atroces souffrances et que le crash était à nos portes. Durant ces brèves périodes de soulagement du côté des plantigrades, l'or parvenait à prendre 10 dollars d'un coup d'un seul dans une euphorie assez rare ces 12 derniers mois. Puis, plus l'année avançait, plus ça partait en sucette, surtout depuis que les crypto-techno-geek fans ont commencé à dire que le Bitcoin, c'est le nouvel or, et que comme pour atteindre la valeur mondiale de l'or, le Bitcoin devrait monter à 500 000 dollars, on s'est dit qu'avoir une Rolex en or, c'était vachement surfait, et du coup, plus personne ne s'intéresse à la valeur refuge qu'est l'or. La seule chose qui le sauve pour le moment, c'est qu'offrir une clé USB pour mettre autour du cou à Noël risque de vous coûter cher en coups de sapin sur la tronche. Quoique cela peut dépendre de combien il y a sur la clé USB, et si c'est du Bitcoin ou de l'Ethereum. Il y a donc encore un peu d'espoir pour l'or, et puis on ne sait jamais, un bon crash en 2018 et le tour est joué, sachant que chaque jour qui passe nous en rapproche du crash. H comme High Dividend Yield, c'est un truc has-been qui est soudainement devenu très populaire ces derniers temps. Il y a quelques mois, tout le monde se fichait pas mal de toucher un dividende sur une action détenue en portefeuille. C'était même carrément vulgaire puisqu'il vous suffisait d'acheter des titres de croissance pour que votre capital s'apprécie de manière conséquente, rapide et violente. Oui, bon d'accord, on est toujours plus intelligent après. Toujours est-il que si vous vouliez aborder le thème des hauts dividendes, tout le monde s'en fichait comme de leur premier iPhone. Sauf que petit à petit, l'idée a fait son chemin dans la tête de certains investisseurs qui se sont rendus compte qu'en plus de détenir une part d'une société qui produit des trucs et qui n'est pas complètement inutile dans l'économie, pas comme Snapchat, vous pouviez même toucher un dividende. Un peu au même titre que si vous étiez propriétaire d'un immeuble et que votre locataire vous versait un loyer. Ces derniers mois, les sociétés qui avaient les moyens se sont même fait plaisir en rachetant des titres, en augmentant le dividende. Bref, c'est devenu un investissement rentable. Ennuyeux, mais rentable. Figurez-vous que si vous vous amusez à faire le calcul, si vous aviez acheté du Philip Morris il y a 17 ans et que vous cumuliez la performance du titre plus les dividendes encaissés chaque trimestre, la performance n'aurait pas grand-chose à envier au Bitcoin cette année. Alors oui, c'est du tabac, c'est pas bon pour la santé, mais il y avait plein d'autres titres qui étaient moins fun que Facebook, mais qui payaient des jolis dividendes. On a eu tendance à l'oublier cette année, on s'en est souvenu, pas assez, mais quand même. En I, nous avons I comme intelligence artificielle. Si la technologie a montré que l'année aura été belle, il y a un sous-secteur qui a marqué l'année plus que les autres, c'est l'intelligence artificielle. Depuis que l'on en parle, je ne peux pas m'empêcher de penser au scénario de Terminator, à la prise de pouvoir des machines. Même si nous n'en sommes pas encore là, il faut dire que le terme et la thématique d'investissement est devenue extrêmement populaire. Le moindre fonds qui a misé sur le concept aura vécu une année extraordinaire, et pour être franc, ce n'est probablement que le début. Cependant, il faut peut-être oublier le concept du superordinateur qui prend le pouvoir dans le futur et qui envoie des robots dans le futur du futur pour exterminer les gens dans le passé qui pourraient éventuellement poser des problèmes au superordinateur dans le futur du futur du futur. En revanche, quand je vois que dès que je me connecte sur mon smartphone, il retient tout ce que je fais, où est-ce que je surfe et qu'il n'arrête pas de me proposer des trucs dont je pourrais éventuellement avoir besoin alors que je n'y ai même pas pensé, que ce même smartphone est capable d'envoyer des infos à Google, Facebook, Apple et les autres pour leur dire ce que je fais et où je suis et avec qui, sans compter qu'en plus, la plupart d'entre nous sont incapables de sortir sur leur smartphone sans que l'angoisse les prenne à la gorge, je me demande si cette intelligence artificielle-là n'est pas en train de nous pourrir la vie. J'ai quand même une soudaine envie de faire un stage dans une ferme où il n'y a pas de réseau. Ah, Je vous laisse, je viens d'avoir un message. J comme Japon, quand j'ai commencé à travailler dans le monde merveilleux de la finance comme jeune trader, nous étions au début des années 90 et le Japon venait de se casser la gueule depuis les hauts du firmament sur lequel il était assis depuis quelques années. En ce temps-là, quelques vieux traders de l'époque étaient prêts à prendre leur retraite tellement ils avaient gagné d'argent avec les fameux varons japonais. Mais le Japon était devenu has-been et plus personne ne voulait s'y intéresser depuis que le Nikkei était passé de 38 000 à 16 000 en quelques mois. Il y avait bien deux ou trois irréductibles qui tentaient de se former sur le sujet, pariant que dans 5 ans, le marché japonais reviendrait en odeur de sainteté. Il aura fallu 20 ans pour que le Nikkei retrouve des couleurs, et encore, tout le monde s'en fout. Début 2013, le Nikkei n'était même pas à 10 000 points. Début 2017, nous étions à 15 000, et ce matin, nous sommes à près de 23 000 points sur le Nikkei. Le marché japonais a fait un retour magistral et pourtant personne n'en parle ou personne ne s'en préoccupe. Personne ne trouve une raison de s'y intéresser vraiment. En tous les cas, la banque centrale japonaise, elle s'y intéresse puisque selon les statistiques et selon les sources que l'on emploie, la BOJ posséderait entre 50 et 75% des ETF sur le marché japonais. En gros, ils sont juste les plus gros investisseurs locaux. Forcément, on peut se poser la question de ce qui va se passer le jour où la banque centrale va vendre ses positions. Mais en attendant, le marché monte, monte et monte encore. Faut-il croire au marché japonais ? Y a-t-il encore du potentiel au pays du soleil levant ? Il faudra oser pour prendre le train en route, mais toujours est-il que la performance de l'année aurait été spectaculaire pour un marché qui n'intéresse presque personne. Et puis, quand la banque centrale sera actionnaire de tout le marché, ça nous donnera une bonne indication de ce que peut faire la BNS dans les années à venir. Je vous laisse aller au café et je vous retrouve demain pour la suite de la hausse et pour le K, le L, le M, le N et le O. Et si vous avez des suggestions, je suis preneur à tv@investir.ch. Passez une excellente journée et à demain, si vous le voulez bien. Et puis, si vous ne le voulez pas, moi je serai là quand même encore pour quelques jours.